Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans 90 minutes info sur CNews, l'actualité bien sûr, et les débats avec nos invités qui sont déjà présents sur le plateau. Jérôme Dubus, bonjour. Jean Messia, bonjour. Et Jean Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Soyez les bienvenus, les débats dans quelques instants bien sûr, mais d'abord l'actualité avec vous Simon Guilin, bonjour.
Bonjour Lionel, à la prison de Fresnes, le participant à Koh-Lantès, condamné pour viol, va être transféré dans une autre prison. C'est une information de nos confrères du Figaro. Après la diffusion de la vidéo sur YouTube, cet homme de 31 ans a été placé dans un quartier spécifique pour personnes vulnérables. Emmanuel Macron entame une visite officielle de 3 jours en Algérie. Le chef de l'État devrait arriver d'ici une petite demi-heure à Alger. Plusieurs points au programme pour le président de la République. Travail mémoriel, l'épineuse question des visas ou encore l'approvisionnement en gaz. Une visite aux enjeux multiples donc. Toute manifestation sera interdite en vue du match Nice-Tel Aviv. Le match de barrage retour de la Ligue Europa est prévu ce soir à 20h. Pour éviter les débordements, la préfecture des Alpes-Maritimes a interdit tout rassemblement autour du stade. Une trentaine d'étudiants de Sciences Po Menton avaient prévu une manifestation pour dénoncer, je cite, les actions des forces israéliennes sur le territoire palestinien.
Merci Simon. Prochain point sur l'actualité dans une demi-heure maintenant. Nous allons évoquer les enseignants dans nos débats. Voilà pourquoi j'accueille en duplex avec nous Jean-Rémy Girard. Bonjour, vous êtes le président du syndicat des personnels de l'éducation nationale. Et avec vous, on va évoquer les déclarations et les propositions, d'ailleurs des décisions même d'Emmanuel Macron ce matin à la Sorbonne. Il s'est engagé à poursuivre la revalorisation des salaires des enseignants. Il s'exprimait à quelques jours de la rentrée scolaire pour laquelle 4000 professeurs manquent à l'appel. On va l'écouter et on retrouve évidemment le sujet résumé de cette matinée.
Alors ça veut dire que quelque chose ne marche pas dans notre organisation collective. Nous sommes obligés de le regarder en face.
Des dépenses pour moins d'inquiétude dans les écoles. Voilà le plan d'Emmanuel Macron. Un plan qui passe donc par des étudiants et des professeurs heureux. Pour ces derniers, ceux qui débuteront dans la profession, c'est une revalorisation qui les attend.
C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit, commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a 2 ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net.
L'investissement de l'État ira aussi dans un fonds d'innovation pédagogique d'au moins 500 millions et disponible dès septembre. Objectif, permettre aux élèves d'avoir une nouvelle perspective d'avenir grâce à des projets concrets. En plus de ces annonces, Emmanuel Macron souhaite une transformation profonde des lycées professionnels. Une transformation qui passera par le développement des temps de stage d'au moins 50%.
Mais il faut que dès maintenant, nous mettions en place ce travail en profondeur, cette transformation de nos lycées professionnels.
Par ailleurs, le pass culture, souvent mis en avant par l'exécutif, sera cette année élargi à tous les collégiens.
On retient donc 2000 euros net pour un enseignant qui débute sa carrière. Jean-Rémy Girard, est-ce que c'est un geste qui va dans le bon sens? C'est une belle augmentation puisque je crois que c'est une augmentation d'à peu près 500 euros pour un enseignant débutant.
Alors, il va falloir vérifier ce qu'il y a derrière ces chiffres-là, puisque les 2000 euros, c'est déjà ce qu'annonçait Jean-Michel Blanquer hein, sous le quinquennat précédent, et ça n'a pas eu lieu. Ensuite, l'enseignant débutant, c'est l'enseignant stagiaire, hein, celui dont vous parlez. Je ne suis pas certain qu'il soit forcément concerné par cette augmentation. Les primes d'attractivité qui avaient eu lieu dans le quinquennat précédent, elles commençaient qu'après le stage. Enfin, il faut quand même le dire, c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'on ne va pas poursuivre la revalorisation. On va peut-être, si ça se passe bien, la commencer, puisque la plupart des enseignants, les 5 dernières années, n'ont rien touché ou peanuts. Hein. Moi qui ne suis même pas en milieu de carrière, l'incroyable prime à laquelle j'ai eu le droit pendant le quinquennat, ça a été 29 euros par mois. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des collègues de mon âge, plus âgés et même un peu plus jeunes, ils ont perdu de l'argent pendant le quinquennat précédent. Donc il y a un rattrapage salarial gigantesque, qui n'est pas lié que spécialement à Emmanuel Macron et à son quinquennat, mais pour lequel il n'y a pas eu d'effort réel qui a été fait durant les 5 dernières années.
Mais ce rééquilibrage ne vous satisfait pas néanmoins. S'il y a des rattrapages, c'est déjà une très bonne chose qu'ils existent, qu'ils arrivent.
Aujourd'hui, 2000 euros, c'est ce que touche un professeur des écoles qui a 40 ans. Donc, y a un risque, c'est ce qui est déjà en train de se passer, c'est-à-dire d'aplatir la carrière. C'est-à-dire qu'on commence à 2000 euros et qu'on y reste pendant très longtemps, en fait, ce qui ne va pas vers l'attractivité du métier. Et ensuite, il faut voir où on en est en termes de rémunération, parce qu'on est là en train de se dire, mon Dieu, 2000 euros, c'est incroyable. C'est ridicule. C'est ridicule. On est un métier qui est à Bac plus 5, qui est catégorie A de la fonction publique, la catégorie la plus élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, on touche près de 1000 euros de moins par mois que la moyenne des catégories A de la fonction publique d'État, nous, les enseignants. On est à ça, en fait, en termes d'écart salarial. Je ne parle pas des autres pays européens, on a toutes les comparaisons qu'on veut sous la main et qui sont quand même elles aussi très parlantes. Je ne parle pas de la difficulté à recruter des professeurs, je ne parle pas non plus de l'augmentation des départs volontaires, des démissions, des ruptures conventionnelles chaque année. Il y a 10 ans, il y avait 80 stagiaires qui partaient. En 2020, il y en avait près de 700 qui sont partis, des stagiaires de l'éducation nationale. Il y a une crise, en fait, réelle d'attractivité de notre métier. Je suis plus que circonspect sur le fait que ce qu'a dit Emmanuel Macron arrive à la résoudre.
Très bien, on va parler de toute manière de ce problème de vocation, hein, de recrutement des enseignants. Mais d'abord, Jean Garrigue, est-ce que avec cette annonce, pas une tentative de dire que ce n'est pas encore la fin de l'abondance pour les enseignants ?
Si, c'était un engagement quand même d'Emmanuel Macron au moment de la campagne présidentielle, législative. Législative, il n'a pas beaucoup parlé. Enfin, disons que le revaloriser un certain nombre de salaires de la fonction publique, et notamment des enseignants, ça me paraît un rattrapage indispensable par rapport d'abord à ce qui était, ce qui est la différence entre les salaires en France et puis dans tous les pays étrangers, et puis par rapport à ce qui était promis par Emmanuel Macron. Je pense que c'est une bonne chose. Je suis un petit peu surpris, c'est peut-être pas le mot, par la réaction très, je dirais, critique du représentant du syndicat de l'éducation. Je le comprends, puisqu'il est vrai qu'il y a une vraie crise des vocations en ce pays. Pour avoir enseigné pendant 25 ans à l'université et avoir formé des futurs enseignants, qu'ils soient d'ailleurs du primaire ou du secondaire, j'ai bien vu, d'une part, et il faut bien le dire, une érosion du niveau de ces étudiants, c'est-à-dire du niveau de ceux qui vont être devant nos classes. Et ça, c'est un vrai problème. Et j'ai vu aussi une érosion des motivations. Et évidemment, là où le syndicaliste a raison d'insister là-dessus, la revalorisation des salaires, même si elle est insuffisante, mais cette revalorisation ne suffira pas à régler le problème fondamental qui est le problème de l'attractivité de ces métiers. Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que le statut de l'enseignant dans notre société, la manière où ils sont soumis à une violence permanente venant des élèves, venant des parents d'élèves, beaucoup des parents d'élèves, et venant au fond du regard que la société porte sur eux, fait que pour beaucoup de jeunes, ce n'est pas un métier attractif. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a, dans tous les domaines, il faut absolument revaloriser cette attractivité, parce que en plus, les évaluations, qu'elles soient françaises ou européennes, montrent que notre système est très improductif, c'est-à-dire que la qualité de nos enseignants, la qualité de nos élèves décline d'année en année. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. La responsabilité n'incombe pas qu'à nos politiques, mais elle n'incombe encore moins aux enseignants. Je pense qu'il y a tout un ensemble de choses à revoir, je le répète, sur l'attractivité de ces métiers, qui sont les plus beaux métiers du monde dans notre société.
On y vient, et avant de céder la parole à Jean Messia et à Jérôme Dubus, et de retrouver aussi Jean-Rémy Girard, on va écouter de nouveau le président Macron, qui lui s'exprime maintenant sur le recrutement des enseignants, en effet, et ce qu'il veut mettre en place.
Ayant fait le point avec le ministre hier, j'ai pleine confiance, monsieur le ministre, et dans vous toutes et tous pour que les choses se passent bien. Je sais les difficultés qu'il y a, que nous connaissons en matière de recrutement, elles ne sont pas nouvelles. Elles ne sont d'ailleurs pas supérieures à celles de l'année dernière. Et j'ai donné mandat au ministre, et nous n'avons d'ailleurs pas attendu cette rentrée pour le faire, avec vous, d'organiser les choses pour régler ces sujets sur le court terme, avec des femmes et des hommes de grande qualité qui vont être devant nos étudiants, nos élèves, nos adolescents, et de conduire aussi des réformes le plus larges pour régler de manière, oserais-je dire, plus structurelle, parfois le déficit d'attractivité qu'il y a dans certaines filières ou pour une partie de nos enseignants.
Jérôme Dubuscan, le président Macron dit qu'il y aura des enseignants devant chacun des élèves français. Ce sont des professeurs, ce qu'on appelle contractuels, donc qui n'ont pas le diplôme requis, mais qui pourront enseigner. Mais peut-être un enseignement qui ne sera pas forcément de qualité, parce qu'il manque 4000 enseignants avant la rentrée.
Indéniablement, il y a un problème d'attractivité qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Ça fait plusieurs années qu'on constate ce déficit de professeurs et d'enseignants. Et aujourd'hui, effectivement, il manque à peu près 4000, on nous dit 4000 enseignants globalement. Et on a recours, malheureusement, à ce speed dating qui est un petit peu étonnant tout de même pour recruter des professeurs qui sont devant des élèves. Et la fonction du professeur, je le rappelle, c'est de transmettre des savoirs. Enfin, en tout cas, pour moi, le principe de l'école, le principe numéro un de l'école, c'est la transmission des savoirs, les savoirs fondamentaux. Alors, on peut revenir sur les savoirs fondamentaux, définir ce que c'est, etc. Mais dans l'attractivité, il n'y a pas seulement le problème du salaire. Alors, moi, je salue évidemment ce geste qui était un engagement du président pendant la campagne. Il a effectivement été confirmé ce matin. Il va être mis en place à partir de cette rentrée. Il faut s'en féliciter. Alors, il y a deux manières de le revoir et le syndicaliste que j'entendais tout à l'heure avec grand intérêt...
Et qu'on va réécouter tout à l'heure aussi.
On va réécouter. Il y a deux manières de voir le... C'est un peu la bouteille vide ou à moitié pleine. C'est-à-dire que si vous dites effectivement et vous comparez le salaire d'un bac plus 5 à 2000 euros, bah effectivement, vous êtes très en dessous. Bon, c'est 100 euros de plus par année d'études par rapport au SMIC. C'est très peu, hein, finalement, 2000 euros. Mais si vous comparez le salaire horaire... là, ça change complètement les choses. Donc, si vous raisonnez en masse brute, effectivement, ça paraît peu. Si vous divisez par le nombre d'heures travaillées, effectuées, là, on arrive à un salaire horaire qui n'est pas négligeable du tout. Alors, et puis alors, il y a d'autres...
C'est pas sûr. Attendez, qu'est-ce que vous faites de la correction de copie, de la préparation des cours? Vous l'intégrez, ça? Ou
vous
prenez juste la crème des quelques heures passées devant les élèves?
Non, je l'intègre, bien évidemment.
Dans ce cas-là, c'est pas votre calcul, il est pas bon. Hein.
Ben si. Mais non. Alors, on peut le refaire, si vous voulez, mathématiquement, il est très bon. Et donc, si vous voulez, il y a une différence entre les deux. Et puis, il y a ces autres facteurs d'attractivité qui sont le respect du professeur, qui n'est plus actuellement effectivement respecté, la position sociale du professeur qui effectivement a été complètement dévalorisée depuis des années. Et ça, ce n'est pas le salaire qui va le corriger.
Oui. Jean-Rémy Girard, alors il y a le salaire. En effet, vous êtes exprimé sur cette augmentation pour les enseignants débutants. On le rappelle, 2000 euros net pour un début de carrière. On peut encore en discuter effectivement, mais sur le choix... d'intégrer des enseignants contractuels, ces professeurs contractuels, donc qui viennent combler les postes, en tout cas, de professeurs qui ne sont pas suffisamment diplômés. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que l'enseignement sera de qualité pour les élèves? Car c'est bien ça l'essentiel.
Alors, nous, on sait très bien, puisque ce n'est pas nouveau qu'il y ait des contractuels dans l'éducation nationale. Ce qui est nouveau, c'est le volume là qui arrive cette année. On sait très bien qu'une partie d'entre eux ne reste pas jusqu'à la fin de l'année scolaire. Enfin, une partie d'entre eux vont s'en aller en octobre, en novembre, ils vont partir parce que ça ne leur conviendra pas, ce sera trop difficile, parce que ils auront un choc entre ce qu'ils imaginaient être le travail enseignant, y compris d'ailleurs ce qui a été évoqué sur le plateau, le temps de travail réel, qui est, je le rappelle, d'après les études même du ministère, plus proche de 40 à 45 heures par semaine que d'autres choses, sur les semaines de cours, plus du temps de travail pendant les petites vacances. Donc je vous assure que le salaire horaire, il n'est pas très bon non plus. Et beaucoup vont partir. Donc le problème, ce n'est pas juste d'avoir un adulte devant les élèves au 1er septembre. Le problème, c'est d'être sûr qu'il y en aura encore un le 1er février. Et de trouver les contractuels qui vont remplacer les contractuels qui vont se barrer. De trouver les contractuels qui vont remplacer les 700 stagiaires qui vont partir. Etc., etc. Il y a une crise de recrutement. Je suis bien d'accord pour dire que la rémunération, ce n'est pas tout. Mais à un moment, on peut toujours dire qu'il faut revaloriser l'image du métier. Je suis entièrement d'accord avec vous, l'image du métier s'est complètement dégradée. l'image du métier, elle va aussi avec la rémunération. Vous imaginez bien quelqu'un qui a fait 5 ans d'études de mathématiques, quand on lui dit tu vas être stagiaire à 1 500 euros et ensuite, peut-être formidable, tu toucheras 2 000 euros pour être remplaçant dans une zone d'éducation prioritaire de Créteil, vous imaginez bien qu'il va aller dans le privé. Cette personne-là va aller dans le privé, bien sûr, pour toucher plus avec de meilleures conditions de travail. Donc oui, cette image-là, elle passe aussi par la question de la rémunération. Si le métier n'est pas bien payé, forcément, les gens qui ont les compétences et les meilleures compétences pour l'exercer n'ont pas envie de passer le concours.
Jean Messia, c'est forcément l'éducation, l'enseignement qui va en pâtir, l'éducation des enfants.
Bah, écoutez, en tout cas, cette mesure à 2000 euros, elle sonne tout à fait juste et elle sonne alléchante. Il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est purement démagogique, en fait, parce que si vous donnez 2000 euros, effectivement, aux gens, aux enseignants en entrée de carrière, c'est toute la chaîne de rémunération des enseignants en fonction de leur ancienneté qui devra être revue. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arriver comme ça et jeter modifier un maillon sans toucher à l'ensemble de la chaîne, sauf à créer des injustices salariales criantes au sein de ce métier. La deuxième chose, c'est que effectivement, ce qui est fabuleux, c'est que le système, en tout cas l'idéologie antinationale qui dirige la France depuis une quarantaine d'années, a réussi à dégoûter les candidats à tout ce qu'on appelle les métiers passion, que ce soit les policiers, que ce soit les infirmiers, tous les métiers de la santé, ou que ce soit les professeurs. Donc en fait, les gens n'ont plus envie de faire ces métiers-là. Il y a effectivement un manque d'attractivité qui ne s'explique pas que par le salaire. Il y a d'abord effectivement une question idéologique de perte de l'autorité. C'est toute l'idéologie de 68 qui a mis en fait le prof pratiquement au rang des élèves avec la possibilité de faire copain-copain, d'avoir des auto-jugements, etc. Un peu d'ailleurs comme on l'a vu à Fresnes quand les surveillants font copain-copain avec les détenus. Tout ça, ça participe d'une même idéologie délétère qui finalement sape les fondements de l'autorité, en l'espèce de l'autorité des maîtres et des maîtresses d'école. Bon, après, vous avez toute la problématique du grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un changement de population, l'État français n'est plus français, d'une certaine façon, en tout cas, il est moins français.
Et donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de professeurs, Jean-Messia.
Et donc effectivement, vous avez tout un tas...
C'est un peu court quand même, non,
vous avez tout un tas de problématiques, à la fois dans la sécurité, dans la santé, à l'éducation nationale, qui sont évidemment impactés par ça, c'est-à-dire qu'il y a une baisse dramatique du niveau, notamment dans certaines zones. Et la perte d'autorité, évidemment, s'explique aussi par ça, c'est-à-dire toutes les zones d'éducation prioritaire, etc. C'est évidemment des zones qui sont à majorité à peuplement immigré, et donc il y a un effondrement du niveau. Et quand Emmanuel Macron nous parle, par exemple, de liberté pédagogique, qu'est-ce qu'il entend par là? Il ne veut qu'officialiser, finalement, la baisse du niveau pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles populations qui n'ont pas le niveau du système d'éducation française.
Voilà. Je laisse le mot de conclusion sur ce sujet qu'on va quitter provisoirement à Jean-Rémy Girard. Êtes-vous inquiet par rapport à toute la situation qu'on est en train de brosser ensemble depuis de nombreuses minutes maintenant pour cette rentrée? Et peut-il y avoir des mouvements sociaux dans le cadre du corps enseignant par rapport à cette rentrée?
Oui, alors sans rentrer dans les discussions idéologiques, moi j'enseigne dans un lycée de banlieue parisienne qui a une certaine mixité sociale. Je vous assure que ce n'est pas la couleur de peau qui détermine le niveau scolaire de ce point de vue-là. Mais
on n'est pas aveugle non plus.
Non, mais je suis pas aveugle, je les ai devant moi, les élèves.
Vous n'êtes pas dans le 93, vous n'êtes pas avant en vain.
Attendez, Jean, laissez Jean-Rémy s'exprimer. Jean-Rémy Girard.
De Gennevilliers, ce n'est pas effectivement les endroits les plus chauds du 93. Voilà. Mais il y a effectivement un tiers de catégories sociales défavorisées dans le lycée, très clairement. Mais au-delà de ça, parce que moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là, et je pense qu'en fait, c'est pas ça le cœur du sujet aujourd'hui. Le cœur du sujet, parce qu'il est effectivement dans le fait que oui, on pense que ça va continuer. C'est-à-dire que effectivement, l'année prochaine, l'année d'après, on va encore avoir des postes qui ne seront pas pourvus au concours, qu'on va encore recruter des contractuels, et que ça va continuer comme ça à se dégrader, et à se dégrader d'ailleurs davantage dans les endroits les plus difficiles. Parce que les contractuels, c'est effectivement là qu'ils vont en priorité, parce que c'est là qu'on manque de monde en priorité. Donc la question de l'égalité des chances, qui est censée garantir l'école de ce point de vue-là, cette promesse-là, elle n'est absolument pas tenue. Et ça, c'est catastrophique pour toute la nation. Hein. Et de ce point de vue-là, l'école qui est un des piliers de la nation, avec la police, avec l'hôpital, on est bien d'accord là-dessus, on connaît les mêmes problèmes, on est aussi bien d'accord là-dessus. Voilà. c'est en train de se casser la figure. Et il ne faudra pas s'étonner quand à un moment on se regardera en disant « et maintenant on fait quoi ?» et ce sera trop tard.
Merci Jean-Rémy Girard, merci d'être venu dans 90 minutes info sur CNews. L'éducation et donc le marché du travail en période d'inflation. Et les mots d'Emmanuel Macron d'ailleurs hier lors du Conseil des ministres avec la fin de l'abondance a fait beaucoup réagir, y compris les chefs d'entreprise. On va retrouver Éric Dorique-Matène qui est à Perros-Guirec pour le Festival des entrepreneurs, le Big Tour BPI. On vous retrouve Éric Dorique-Matène pour cette étape qui promouvoit encore toujours l'envie d'entreprendre et des réactions très diverses et très intéressantes aussi des chefs d'entreprise qui sont avec vous.
Oui, c'était tentant de les interroger, en tout cas de m'entretenir avec eux. Alors je l'ai fait, hein, et je me suis entretenu avec le secrétaire général de la CPME, vous savez, c'est la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Eudes Duménil. Alors lui, c'est vraiment au niveau national, hein, et c'est vrai que franchement, il n'est pas content. Alors après, bien sûr, est-ce que c'est bien ou mal interprété ses propos? On sait qu'il y a un petit peu une polémique là-dessus, mais c'est vrai que quand on parle de sacrifices, de temps difficiles, la fin de l'abondance, l'insouciance qui est terminée, là, les patrons réagissent pas bien, je peux vous dire. D'abord, l'insouciance, elle devrait concerner, la fin de l'insouciance devrait concerner l'administration et les pouvoirs publics, c'est ce que me disent les CPME, parce qu'ils donnent l'exemple des réseaux ferroviaires, par exemple, qui n'ont pas été entretenus pendant des années, ça coûte des milliards aujourd'hui pour mettre en état. Aussi, l'insouciance nucléaire, les centrales nucléaires, vous savez qu'il y en a une sur deux qui ne fonctionne pas aujourd'hui, encore une insouciance, il est temps que ça se finisse, cette insouciance, me disait Jean-Eudes Duménil, et surtout, si vous voulez, c'est aussi sur l'affaire des comptes publics, parce que il ne mâche pas ses mots, les chefs d'entreprise, en tout cas le représentant des petites entreprises, il me dit que c'est maintenant à l'administration de faire des efforts. Le gouvernement ne doit pas mettre la poussière sur le tapis. Il rappelle, il a fait les comptes, la CPME. Ils ont calculé qu'il y avait eu 36 milliards de recettes en plus en un an entre juin 2021 et juin 2022 et que cet argent, il n'a pas été utilisé justement pour remettre en route les centrales nucléaires ou faire les travaux qu'il fallait quand justement les choses allaient bien. C'est ça. Donc ils ne mâchent pas ces mots, ils sont vraiment pas contents. Et puis les patrons, là par contre, sont du souci parce qu'ils ont les PGE à rembourser, les prêts garantis par l'État. Deuxièmement, on leur dit qu'il y aura peut-être des coupures de courant, ils sont pas contents. Et puis vous savez qu'il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Alors je vais vous faire un petit cadeau, si je puis dire. On est avec le responsable du MEDEF. Là, c'est vraiment les grandes entreprises générales en France. Ils représentent les Côtes d'Armor. Je suis donc avec monsieur Franck Perrin-Morel, MEDEF Côtes d'Armor. Vos réactions, j'ai eu tout à l'heure les PME, petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles pensent de ce qu'a dit Emmanuel Macron?
Alors je vais d'abord préciser que le MEDEF ne représente pas les grandes entreprises.
Toutes les entreprises.
90% de nos adhérents sont des PME, tout à fait. Alors je serais tenté de vous dire que c'est un petit peu osé si le discours s'adresse aux entreprises de parler d'insouciance et de parler de fin d'abondance. Je pense que les entreprises françaises en général et les entreprises adhérentes au MEDEF ont joué le jeu depuis des dizaines d'années. Elles ont fait ce qu'il fallait chaque fois qu'il fallait s'adapter à une réforme, chaque fois qu'il fallait s'adapter à un changement. Elles ont toujours fait ce qu'il fallait. Donc je suis un petit peu surpris. Je ne suis pas certain quand on dit qu'il faut siffler la fin de la récré. Moi, je me sens pas. Je pense pas que les entreprises se sentent forcément concernées. En revanche, on va forcément en pâtir et on va forcément, encore une fois, être obligé de nous adapter, de faire preuve de résilience, de se transformer. Ça, c'est une réalité. On n'a pas le choix que de transformer un certain nombre de choses, de process, de façons de faire. Mais les termes sont peut-être un petit peu maladroits et pas forcément bien choisis s'ils s'adressent en tout cas aux entreprises.
Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, les patrons réagissent mal quand même. Surtout qu'il y a pas, on peut pas dire que vraiment il y a eu l'abondance là pour les entreprises. Ça fait déjà des années que vous faites attention et avec la question des salaires, la question de l'emploi, la pénurie de main-d'œuvre. Je parlais de ça tout à l'heure.
Alors la pénurie de main-d'œuvre, c'est la problématique principale dans les Côtes d'Armor et dans d'autres départements, en particulier en Bretagne. Donc effectivement, on ne peut pas parler d'abondance. On a un système avec des charges sur les entreprises qui sont très importantes, les plus importantes d'Europe. Et donc on ne peut pas dire qu'on soit le grand bénéficiaire de tout ça. Au contraire, je pense que nous sommes les principaux contributeurs. Et il faudrait peut-être voir à réformer d'autres parties que la partie entreprise, quoi.
Comme le dit votre collègue des PME, c'est plutôt à l'État aujourd'hui de se faire du souci, c'est-à-dire c'est lui qui doit mettre fin à l'insouciance.
Alors, mettre fin à l'insouciance, je ne sais pas. Des réformes, en tout cas, sont nécessaires. Ça c'est indéniable. On a des réformes sociales à mener. Elles sont soumises à la fois à des contraintes économiques, mais aussi à des contraintes sociales. Donc, ce n'est pas toujours très simple à gérer. Mais effectivement, il y a des réformes à mener et il faut absolument les mener parce que sinon, ça va être très, très problématique après pour les entreprises. Oui.
Voilà, donc vous voyez, les représentants du patronat réagissent pas aux propos d'Emmanuel Macron. Là, on a eu les PME et là, on a eu le MEDEF. Voilà, ici donc, Perros Guirec, je vous rends l'antenne.
Merci, merci Eric de Ricmaten avec Mickaël Chaillou pour ce direct. Depuis Perros Guirec, on se rend compte évidemment avec toute cette communication, cette médiatisation, Jérôme Dubu, qui a moins d'appétence évidemment pour entreprendre, là, puisque ce Big Tour est là pour montrer aux jeunes qu'on peut entreprendre, qu'on peut construire, qu'on peut faire des choses, mais embrasser des carrières comme la carrière d'enseignant dont on parlait il y a quelques minutes.
Non, mais enfin, votre commentateur exagère. Les entreprises ne sont pas en colère. Il y a les journées du MEDEF qui vont s'ouvrir lundi et mardi. Vous allez voir que l'atmosphère n'est pas du tout celle qui est décrite aujourd'hui.
Donc c'est l'abondance.
Alors l'insouciance,
alors,
bon, effectivement, l'insouciance.
Dans l'abondance et l'opulence.
Non. Ah, l'abondance.
Parce que c'est ce qui est dit.
On a eu ce débat hier, mais je ne vais pas le reprendre. L'abondance, c'est l'abondance des matières premières. C'est bien évident. C'est l'abondance de l'énergie. C'est l'abondance. Non. C'est ça. L'abondance, c'est pas du tout l'abondance privée ou l'abondance des entreprises.
Elle n'a pas précisé. Alors,
mais oui, mais moi ça, je le précise parce qu'il faut faire aussi la somme chose derrière. Voilà. Donc si vous voulez, il faut pas que les entreprises se sentent visées par ce qui a été dit. Au contraire. Et d'ailleurs, les entreprises, je crois qu'elles n'ont pas eu à se plaindre pendant les deux dernières années. D'ailleurs, ça a été reconnu par l'ensemble des catégories professionnelles et par l'ensemble des fédérations professionnelles, MEDEF, CPME et toutes les fédérations professionnelles, que le gouvernement a fait en période de Covid exactement ce qu'il fallait faire.
20 secondes, Jean Messia.
Il y a quelque chose de contradictoire, c'est qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas encourager les jeunes à entreprendre et en même temps leur dire que c'est la fin de l'abondance, parce que par définition, si vous voulez entreprendre et gagner de l'argent, il faut quand même que ça se fasse dans un contexte d'abondance. Si vous êtes dans la disette, entreprendre ne sert à rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Français aimeraient plutôt voir la fin de l'abondance pour les budgets transférés à l'Union européenne, la fin de l'abondance, sur les budgets consacrés à l'immigration, la fin de l'abondance en termes de politique carcérale et d'impunité généralisée et de laxisme généralisé.
Et la fin de l'abondance en matière de temps sur ce plateau que l'on va interrompre immédiatement juste pour marquer une pause et se retrouver dans quelques instants puisqu'on va prendre la direction de l'Algérie où se rend Emmanuel Macron. Il est sur le point d'atterrir très vraisemblablement. On se retrouve dans quelques instants pour en parler dans nos débats et faire un point sur l'actualité. À tout de suite. Quatre-vingt-dix minutes info, les débats dans un instant avec nos invités qui reviennent bien sûr, mais avec vous Simon Gulin, un point sur l'actualité.
En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia totalement déconnectée du réseau après l'endommagement de lignes de communication. C'est une première dans l'histoire de cette centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe. Le site est sous contrôle russe et a été victime de plusieurs bombardements. Et ce matin, Emmanuel Macron a d'ailleurs rencontré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuel face aux étudiants de la Sorbonne à Paris. Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Mais le président du syndicat des personnels de l'éducation nationale se montre très prudent face à ce qu'a dit le chef de l'État. Écoutez.
Il va falloir vérifier ce qu'il y a derrière ces chiffres-là, puisque les 2000 euros, c'est déjà ce qu'annonçait Jean-Michel Blanquer sous le quinquennat précédent, et ça n'a pas eu lieu. Ensuite, l'enseignant débutant, c'est l'enseignant stagiaire, celui dont vous parlez. Je ne suis pas certain qu'il soit forcément concerné par cette augmentation. Les primes d'attractivité qui avaient eu lieu dans le quinquennat précédent et commençaient qu'après le stage. Enfin, il faut quand même le dire, c'est peut-être le point le plus important, c'est qu'on ne va pas poursuivre la revalorisation. On va peut-être, si ça se passe bien, la commencer, puisque la plupart des enseignants, les 5 dernières années, n'ont rien touché ou peanuts.
La rentrée politique est bel et bien lancée. Lors de l'ouverture des journées d'été à Grenoble, Yannick Jadot a attaqué Emmanuel Macron sur le climat. Il souhaite que le chef de l'État sorte du déni. On écoute Yannick Jadot.
L'impression qu'il est descendu de son jet ski et qu'il s'est aperçu qu'il y avait un dérèglement climatique qui cognait très fort, qui créait des drames dans notre pays, économiques, sociaux, sanitaires, et qu'ils allaient s'y mettre. S'ils s'y mettent enfin, si le président de la République sort du déni, sort de l'inaction, ce sera une très bonne nouvelle pour notre pays, ce sera une très bonne nouvelle pour l'écologie. Mais reconnaissons que depuis 5 ans, on a eu beaucoup de discours, très peu d'actes.
Et enfin, consommer raisonnable à des prix moins élevés que dans les grands magasins, c'est ce que propose cette nouvelle épicerie à Bordeaux. Il s'agit d'une enseigne anti-gaspi. En clair, elle propose des produits que la grande distribution ne voulait pas, comme notamment des fruits et légumes trop gros ou moins beaux que les autres. Et vous allez voir que c'est un bon moyen de faire des économies. Voyez ce reportage signé Jérôme Rampenot.
Dans le centre de Bordeaux, cette nouvelle épicerie vient d'ouvrir avec un concept anti-gaspi. Ici, on propose des produits que la grande distribution ne veut pas, à des tarifs attractifs.
Ça vaut le coup. Les tomates, celles que je prends, les tigrées, franchement, il y a plus d'un euro de différence. Un euro, vous savez, à l'heure actuelle, c'est énorme.
Ça permet de réduire le coût de nourriture qui augmente considérablement depuis 6 mois.
Pour ces nouveaux clients, le prix n'est pas la seule motivation.
On évite le gaspillage et on essaye de rajouter un petit peu une plus-value à tout ça, sinon c'est jeté, donc c'est très dommage.
On gaspille des produits tous les jours, que ce soit dans la grande distrib ou même nous-mêmes, en tant que particulier. Et en fait, on a l'impression que c'est un grand geste ou que c'est une immense innovation de dire « on va pas jeter, on va le manger ». Bah là, en fait, c'est juste normal.
Ici, il n'y a pas vraiment de suivi de référence comme dans un magasin classique. C'est suivant les disponibilités et la production.
Sur des fruits et légumes, on va plutôt être sur des produits qui sont soit en surproduction, soit des produits qui sont mal calibrés. Et puis après, on va avoir effectivement des produits qui sont en date courte, mais on est quand même beaucoup sur la surproduction. Et c'est pour ça qu'on travaille avec à peu près 900 partenaires, soit des industriels, soit des producteurs.
Avec une telle démarche, cela permet aux consommateurs de faire une économie de 15 à 25% par produit.
On se retrouve sur le plateau de 90 Minutes Info avec nos invités. Jean Messia, Jean Garrigue, Jérôme Dubus sont avec nous, bien sûr, pour évoquer cette actualité. Le déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. Tiens, d'ailleurs, petite image en direct de l'aéroport d'Alger où, vraisemblablement, c'est imminent, Emmanuel Macron doit atterrir à Alger pour cette visite de 3 jours. Il est attendu, évidemment, il va être accueilli. Et un déplacement qui, évidemment, fait beaucoup parlé, un voyage qui est tourné officiellement vers la jeunesse, mais sans doute d'autres sujets beaucoup plus sensibles d'ordre diplomatique et économique seront à l'ordre du jour. Jeanne Cancard.
Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge ? Mais vous avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça ? Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir.
C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de brouille mémorielle, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Élysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épineux sujet des laissez-passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissez-passer, Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
Jean Messia, peut-on réconcilier la France et l'Algérie ? Et Emmanuel Macron, y va-t-il pour cela ?
Bah écoutez, ça dépend surtout de l'Algérie, puisque je pense que depuis maintenant la fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, la France n'a cessé de faire des pas en direction d'une normalisation des relations. On a toute cette politique de repentance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand Emmanuel Macron interpelle ce jeune qu'on a vu dans le reportage lors de sa première visite, qui dit que on n'a pas connu la colonisation, qu'il faut regarder vers l'avenir. Mais enfin, c'est quand même beaucoup plus facile de regarder vers l'avenir quand on arrête de parler du passé. Or, Emmanuel Macron, avec sa politique de génuflexion mémorielle permanente, il ne fait que ramener les relations dans le passé. Je sais qu'Emmanuel Macron va nous demander de porter un regard lucide et repentant sur la colonisation du Maghreb et de l'Afrique noire par la France. J'aimerais aussi que lui-même jette un regard lucide et repentant sur la politique, enfin la colonisation progressive de la France par le Maghreb et l'Afrique noire en ce moment. Voilà, donc à un moment, si vous voulez, il faut équilibrer les choses. Il dit qu'il faut.
On parle de la caractéristique première de Jean Messia.
Si je puis permettre, vous pensez vraiment
que
vous
connaissez l'équilibre de Jean Messia.
La colonisation de la France par le Maghreb.
Effectivement, plutôt que de parler de la colonisation de l'Algérie par la France.
La colonisation, c'est quand même un fait historique. Qui est très important, la colonisation
Vous avez parfaitement raison.
La Maghreb est en train de coloniser la France.
La colonisation.
Politiquement parlant.
La colonisation du Maghreb par la France a apporté au Maghreb des infrastructures routières, ferroviaires, santé, l'éducation, etc. J'aimerais bien que la
colonisation est un mot un peu fort, convenez-en quand même, Jean Messia.
Que l'afflux migratoire en provenance de ces régions en France nous apporte autant que la France a apporté à ces régions pendant plusieurs dizaines d'années.
Sur la colonisation de la France par le Maghreb, c'est peut-être un peu exagéré. Si vous me permettez, Jean Messia,
l'équilibre.
On parle de la colonisation.
Vous, parce que quand vous voyez le comportement
de l'Algérie par la France il y a quelques années, qui reste un fait historique lourd, et ensuite, là, parler de colonisation de la France aujourd'hui,
Monsieur Rousseau, avec tout le respect,
mais il est réciproque, Jean.
Avec tout le respect que vous dois. On passe ici sur ce plateau et ailleurs des heures à parler de l'insécurité et du lien entre l'ensauvagement de la France et certaines immigrations. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même l'a fait. Donc, il ne faut pas faire semblant et de ne pas voir, si vous voulez.
Non, je ne fais pas semblant. C'est juste la sémantique et le choix des mots, Jean Messia.
Déforme,
c'est pas faire semblant. C'est juste
France,
le choix des mots. Parler de colonisation est un mot un peu fort, je me permets de vous le dire. Après, vous avez la responsabilité de vos propos.
Je termine.
Il n'y a aucun problème. Nous sommes en direct. Vous pouvez vous exprimer. Et après, je passerai la parole. Allez-y.
Je termine en un mot en vous disant que nous avons sur notre territoire des millions de personnes qui ont un comportement néocolonial, qui se comportent en France avec un esprit de revanche. D'ailleurs, il suffit de les entendre. Et donc, effectivement, le choix que j'ai fait du mot colonisation n'est pas hasardeux. Il y a dans la mentalité d'énormément de personnes qui vivent en France, et même des descendants d'immigrés, effectivement, une politique et une volonté de revanche sur la France.
Il n'est pas hasardeux, ça, je n'en doute pas. Mais à mon avis, il est mal choisi. En tout cas, on ne va pas polémiquer et rentrer dans ce débat sémantique. Ce n'est pas le sujet, en effet, parce que c'est vrai, Jean Garrigue, ce déplacement d'Emmanuel Macron. Il y a cet aspect historique, en effet, la fameuse rente mémorielle, mais il y a aussi une vocation à les récupérer peut-être un tout petit peu en matière d'économie d'accord autour du gaz, puisqu'on rappelle que l'Algérie est un gros producteur de gaz.
J'imagine qu'au fond, c'est quand même le sujet central de cette visite. D'ailleurs, Bruno Le Maire est présent, etc. Alors, il y a aussi beaucoup de start-upers français qui sont présents et qui vont négocier avec les Algériens, parce que ce sont des économies, justement, qui sont en plein essor, qu'il faut essayer d'encourager, avec lesquelles il faut créer des liens. On a des liens historiques qu'on a évoqués. Je rappelle juste à Jean Messia, malgré tout, que des millions d'Algériens, depuis la fin de la guerre, depuis l'indépendance, sont venus contribuer à l'effort productif français et qu'il me semble que cet apport-là n'est pas négligeable. Bah, ils ont été payés, mais ils ont contribué.
C'était pas de l'esclavage.
Il manquerait plus que ça.
Alors,
là où je vous rejoins.
Non, mais vous dites ça. Ils sont venus de leur plein gré.
Non, mais vous n'avez
et avec
évoqué
une amélioration des conditions
on
de travail.
Est allé les chercher beaucoup
on est allé les chercher. Vous n'avez évoqué que l'aspect négatif de leur présence en France. Je voulais juste rejoindre Jean Messia sur la question de la normalisation. C'est vrai que depuis 1962, c'est du côté français que tous les efforts de normalisation ont été faits. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le gouvernement algérien, en tout cas le FLN, au fond, qui est aux sources de ce gouvernement, l'armée algérienne tient son pouvoir de cette identité de la guerre d'Algérie. La société, au fond, la justification du pouvoir assez autoritaire du FLN, c'est précisément que c'est une culture qui est inspirée par cette guerre qu'appelle une guerre de libération. C'est un peu comme si on nous reprochait de faire référence à la Révolution française. Pour eux, c'est ça. Et il est vrai que tous les efforts qui sont faits, y compris par des historiens français comme Benjamin Stora, qui accompagne Emmanuel Macron, pour justement essayer de trouver une mémoire commune, reconnaître les torts de la France, la torture, etc., reconnaître les torts de l'Algérie, là-dessus, il y a une inégalité totale. Et il y a un effort que la société algérienne doit faire pour reconnaître ses propres responsabilités. Ça, c'est une certitude. En France, le travail, il est fait. Il est fait par des historiens, il est fait par des politiques. Le fait que, y compris que Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, de son premier quinquennat, ait reconnu et parlé de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation, c'est quelque chose qui, historiquement, peut tout à fait se justifier. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui me scandalise. Je rigole pas du tout. Il y a eu des crimes contre l'humanité pendant la période de colonisation d'Algérie. Ce n'est donc pas mener une politique de génuflexion et de repentance que de reconnaître ce qu'a été cette histoire complexe, parce qu'il y a eu aussi tout un apport de la colonisation, des ports, des routes, des hôpitaux qui ont apporté beaucoup à l'Algérie. Et je le répète, il y a un effort à faire aujourd'hui du côté algérien pour reconnaître ce qu'est une histoire complexe de nos relations.
Il n'en demeure pas moins, Jérôme Dubus, que Emmanuel Macron marche un peu sur des œufs tout de même.
Si on réouvre encore ce débat, il a pris son costume de VRP. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais il a raison. Parce que si on repart sur le débat concernant la repentance, on s'en sortira pas. Pour le moment, le pouvoir algérien ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé pendant la décolonisation. Bon, c'est clair. Emmanuel Macron va au rang. Vous croyez que le président algérien va l'accompagner? Non, il ne va pas l'accompagner. Emmanuel Macron va être tout seul à Oran. Bon, c'est très significatif de la négation de l'autorité algérienne sur ce qui s'est passé de part et d'autre, parce que ça a été effectivement des crimes contre l'humanité. Ça, juridiquement, on peut en discuter.
En tout cas, des crimes, ça c'est clair, de part et d'autre.
Et quand vous avez un président de la République français qui, pour la première fois, va à Oran, on sait ce qui s'est passé en juillet 62 à Oran, après les accords d'Évian, 6 mois après les accords d'Évian. Où des Européens ont été massacrés par le FLN. C'est clair. Eh bien, on aurait aimé que le président ou qu'une autorité algérienne accompagne le président de la République française. Néanmoins, moi, je crois que la priorité pour ce voyage, c'est l'économie. Pourquoi ? Parce que, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les rapports économiques, la balance commerciale économique entre la France et l'Algérie n'a cessé de se dégrader, et notamment depuis le début de l'année. Si vous regardez les chiffres, c'est très significatif. Alors, c'est dû évidemment à la crise de l'énergie, puisqu'on apporte beaucoup plus de produits énergétiques d'Algérie qu'avant. Les importations ont augmenté de 62% d'Algérie vers la France depuis le début de l'année, et nos exportations vers l'Algérie ont baissé de 30% dans le même moment. Ça veut dire que nous étions créditeurs nets en matière commerciale avant la fin de cette année. Vraisemblablement, à la fin de l'année, nous serons débiteurs nets pour la première fois depuis très longtemps. Et si vous regardez également un certain nombre de chiffres, vous voyez des évolutions. Aujourd'hui, la Chine est le premier fournisseur mondial de l'Algérie avec 16% des parts de marché, et la France ne vient que deuxième avec 10%. Si vous regardez les investissements français en Algérie,
Et sur le gaz, l'Italie et l'Allemagne nous a précédés déjà.
Nous sommes numéro 3 en matière d'investissement derrière l'Italie et l'Allemagne. Donc nous avons perdu des parts de marché, nous avons perdu des parts commerciales. Il faut que ce voyage serve essentiellement à ça.
Alors, dans le cadre de ce voyage, de ce déplacement, les absents ont toujours tort. J'aimerais avoir votre réaction sur le fait que Haïm Korsia, le grand rabbin de France, ne soit pas de ce voyage. Il devait faire partie du déplacement, du voyage officiel d'Emmanuel Macron, sauf qu'il a été testé positif à la Covid. Il y a quelques heures. Alors, c'est la première fois qu'il devait se rendre en Algérie, qui, je le dis, est le pays où sont nés ses parents, ses grands-parents. Mais il y a eu sur les réseaux sociaux des messages antisémites qui ont visé le grand rabbin de France. Après l'annonce de cette présence dans la délégation officielle, le leader des frères musulmans en Algérie, Abderrazak Makri, avait d'ailleurs également dénoncé cette visite. Votre réaction, Jean Messia ? Quelques heures avant ce déplacement, Covid.
J'en sais rien. Quand on a le Covid, on ne voyage pas. Mais par contre, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est l'absence totale de réaction du grand rabbin à tous ces messages antisémites exprimés au plus haut niveau par des institutions ou en tout cas des opposants algériens, notamment les frères musulmans, etc. Je me souviens que le grand rabbin Haïm Korsia n'avait pas eu sa langue dans sa poche pour traiter Éric Zemmour d'antisémite. Je ne l'ai pas entendu faire usage de ce terme, alors même qu'il reçoit quand même un certain nombre de messages pour le moins choquants de la part de représentants de certaines organisations algériennes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis totalement en désaccord avec cette histoire de crime contre l'humanité. La France n'a aucune repentance à avoir vis-à-vis de quoi que ce soit. Vous avez, en matière de relations...
C'est pas une question de repentance,
en matière de transparence
historique.
Non mais attendez, nous avons en France des dirigeants qu'on pourrait appeler les repentis. Comme si ils se comportent en fait comme si ça avait été d'anciens mafieux qui maintenant sont repentis et disent on va coopérer. C'est un pur scandale. L'Algérie a commis, le FLN a commis un véritable nettoyage ethnique après la signature des accords d'Évian. Ils n'ont pas eu un seul mot et ils en font un point d'honneur à ne jamais reconnaître le moindre excès, le moindre crime, le moindre écart. Parce qu'ils estiment à juste titre que le faire serait les affaiblir internationalement et dans la relation bilatérale. Il n'y a que nos élites qui adorent être inféodées, qui adorent s'aplatir, qui adorent battre leur houlpe et qui adorent faire de la France un pays affreux.
Jean Messia, mais vous avez fait, comme vous le faites habituellement de manière très très habile, vous avez déplacé le débat.
Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas laisser dire.
On était sur Raïm Korsia, oui, mais à un moment donné, il y a un temps pour tout, vous voyez. Et puis quand on est passé sur le cas Raïm Korsia, voilà, j'aimerais que Jérôme Dubus puisse dire quelque chose. Oui, bien sûr.
Avec notre ami Jean Messia, on en arrive à Zemmour, ce qui est un peu étonnant. Quoi, si vous voulez.
Ben non, c'est le point commun,
c'est un homme de Concorde. Moi, je le connais bien, c'est un habitant du 17e que je fréquente assez souvent. C'est un homme de Concorde, c'est un homme d'union. Et effectivement, je ne sais pas si sa maladie est diplomatique. Après, on ne peut pas lui demander de nous donner son test, si vous voulez, pour voir s'il est positif au Covid, peu importe. En tout cas, ce qui a été fait contre lui est inadmissible. Et j'aimerais bien que les autorités françaises le dénoncent. Car je ne sais pas si vous avez regardé ce qui a été dit sur lui. C'est proprement insultant. C'est proprement insultant. Oui. Alors que Raïm Korsia, il est par essence même l'homme de la Concorde et l'homme du rassemblement.
Pas pour tout le monde.
Mais peu importe.
Non, mais par rapport aux Algériens.
Et l'homme du rassemblement de toutes les religions. Oui. Et notamment la religion musulmane.
Tout était prêt.
Il se rend à la Grande Mosquée de Paris systématiquement. Il entretient de très bons rapports avec les autorités musulmanes en France. Bref, oui, mais on n'a pas grand-chose à lui reprocher.
Il y a un décalage dans le temps qui fait que entre les insultes puis ensuite la Covid, alors on ne va pas avoir le mal partout, évidemment.
Il faut absolument que les autorités françaises réagissent devant ces insultes.
Ils le feront pas.
Absolument inadmissible.
Jean Garrigue.
D'autant plus que ces insultes viennent à l'origine d'un représentant des Frères musulmans en Algérie. Et là, si on était logique et cohérent, on devrait exiger du gouvernement algérien que ce qui a été dit par le représentant des Frères musulmans soit condamné, seulement par les Frères.
Longtemps.
Ah ben évidemment, mais sur ce plan-là, je pense que véritablement, là, on peut dire qu'on n'est pas assez intransigeant.
Mais vous pouvez le constater, je vous cède la parole immédiatement, Jean Messia, mais pour celles et ceux qui nous regardent, vous avez vu l'image en direct de l'aéroport d'Alger. Pour l'instant, le protocole est prêt. Mais Emmanuel Macron a un petit peu de retard. Donc l'avion français n'a pas encore atterri à Alger. Jean Messia.
Non, mais je rejoins ce que disait Jérôme Dubus sur l'absence de réaction, pour le coup, des autorités françaises face à ce déferlement de messages antisémites, notamment de la part du représentant des Frères musulmans algériens. Mais je crains, si vous voulez, que les progressistes, entre guillemets, prolongent à l'international ce qu'ils pratiquent déjà en France. C'est-à-dire que l'antisémitisme serait sinon permis... un peu acceptable et on ferait carpet en l'écoutant dès lors qu'il vient de la diversité et qu'il vient d'autre chose que de skinhead ou de l'extrême droite tel qu'il la fantasme.
Le sentiment voilà. du
Donc l'antisémitisme
de la
L'antisémitisme qu'il y a dans les cités, personne n'en parle.
Parce
qu'il provient de la diversité. Toutes les haines sont permises dès lors qu'elles reviennent de la diversité. Et donc le progressisme qui dirige la France exporte en quelque sorte son idéologie nationale à l'étranger en acceptant. Il serait allé en Suède, par exemple, et vous auriez eu un regroupement néofasciste qui avait fait la même chose. Avec le grand rabbin, soyez assurés que là, le gouvernement français aurait même peut-être été capable d'annuler sa visite. Mais là, s'agissant de l'Algérie, alors là, l'aplatissement est de règle.
Je n'allais pas laisser dire ça, parce qu'on ne peut pas le démontrer.
Le gouvernement français défend l'antisémitisme.
Oui, il défend l'antisémitisme, ouais, non, vous avez raison.
Défend la cause.
Défend la cause contre l'antisémitisme, contre matin, midi et soir.
Les lapsus sont révélateurs.
Il faut arrêter. Enfin, c'est lamentable de dire ça et faire cette comparaison.
Les lapsus sont révélateurs.
Ça n'a aucun sens.
L'extrême gauche a suffisamment reproché à Emmanuel
Macron, ce qui est certain, en tout cas,
d'être présent aux manifestations de la LICRA, etc., pour ne pas dire que Emmanuel Macron défend
Jérôme Dubus.
La preuve, c'est tellement vrai que c'est Haïm Korsia qui fait partie du voyage avant qu'il n'ait.
Lui-même n'a rien dit.
On ne sait pas, il faut voir.
Avant qu'il soit atteint du Covid, il faisait partie de la délégation.
Non mais attendez,
c'était prévu.
C'est une réponse.
Non mais attendez, Monsieur Rousseau.
C'est une réponse ponctuelle. À ce que vous disiez.
Dans quel autre Non mais attendez, Monsieur Dubus.
De ne pas lutter contre l'antisémitisme.
Soyons raisonnables un instant. Dans quel autre contexte, excusez-moi, dans quel autre contexte de tels messages auraient été proférés sans que ça n'indigne immédiatement tous les corps constitués en France?
Mais je vous dis qu'il
dans
faut
aucun
qu'on réagisse.
Contexte. Donc arrêtez.
Non, pas vous dire la même chose.
Il y a eu par le passé des insultes brutales, violentes, antisémites et le.
Il y a toujours une réaction.
Mais non, bien sûr. Il y a eu des réactions.
Bien sûr que non. Mais entendez.
Mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas dire.
Alors jamais Jean Messia. Ceux qui disent que le régime de Pétain n'était pas antisémite. Là, effectivement, on peut pas les.
À chaque fois, on a des insultes homophobes, racistes, antisémites. L'ensemble des corps constitués médiatico-politiques réagissent.
Vous avez des propos qui sont spécieux, c'est-à-dire que comme vous êtes éloquent, ils ont l'apparence de la vérité, sauf que c'est totalement faux. Pardonnez-moi, je suis obligé de vous le dire. Vous
ne
pouvez pas dire ça, Jean.
Je prends vos compliments.
D'accord.
C'est totalement faux.
C'est pas un compliment, c'est la vérité, je le pense vraiment.
Je prends votre compliment.
Mais c'est spécieux.
Mais je crains que sur le fond, vous n'avez rien ajouté à ce que j'ai dit.
Alors, par contre, ceux qui effectivement ont dit que le régime de Pétain et le régime de Vichy n'était pas antisémite ou avait sauvé
personne
des Juifs.
Personne n'a dit ça, c'est dans votre délire ça. C'est dans votre délire ça.
Il y a un candidat à la présidence de la République qui l'a
Dreyfus,
et ils l'ont même écrit. Ils l'ont même écrit.
Jean Garrigue.
Ne vous battez pas contre des moulins à vent historiques. Battez-vous contre l'antisémitisme de vos électeurs.
Ne monopolisez pas la parole non plus, Jean Messia, s'il vous plaît. Jean Garrigue, allez-y.
Je rappelle que Éric Zemmour a mis en question la culpabilité du capitaine Dreyfus, dont il a été démontré depuis 100 ans par des dizaines, des centaines d'historiens qu'il n'était pas coupable et que la justice l'a réhabilité, alors que Éric Zemmour nous a dit que peut-être bien qu'il était coupable. Ça, si ce n'est pas une forme d'antisémitisme, alors, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez le justifier certainement.
Ne confondez pas des débats historiques et des débats entre historiens avec des débats politiques.
Mais Éric Zemmour n'est pas un historien.
L'antisémitisme, il l'était.
C'était en tout cas, candidat à la présidentielle.
C'est en tant qu'éditorialiste qu'il avait écrit ça. Je ne suis pas là pour défendre.
Non, il a déclaré ça pendant sa campagne.
Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
soyons honnêtes.
Plutôt que de vous acharner sur l'antisémitisme d'il y a 200 ans ou d'il y a 100 ans, vous avez des combats contre l'antisémitisme à mener aujourd'hui et pour lesquels vos épées sont émoussées.
C'est faux.
On va marquer une pause. De toute manière, on ne pourra pas vous mettre d'accord. C'est aussi l'objet de cette émission, en direct, où tout le monde peut prendre la parole, s'exprimer et dire les choses. On peut aussi les dire calmement, mais quand il y a un petit peu d'animation, c'est bien aussi. Voilà. Chacun, en tout cas, a son point de vue. On marque une pause, on se retrouve dans 90 minutes info dans quelques instants. On va voir si Emmanuel Macron va atterrir à Alger, ça ne saurait tarder maintenant. On parlera aussi d'insécurité dans quelques instants. À tout de suite. 90 minutes info, nos débats pour la dernière demi-heure de notre émission. Mais d'abord un point sur l'actualité, Simon Guillain.
En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporijjia totalement déconnectée du réseau après l'endommagement des lignes de communication. C'est une première dans l'histoire de cette centrale nucléaire qui est la plus grande d'Europe. Le site est sous contrôle russe et a été victime de plusieurs bombardements. Ce matin, Emmanuel Macron a rencontré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La rentrée politique bel et bien lancée lors de l'ouverture des journées d'été à Grenoble. Yannick Jadot a attaqué Emmanuel Macron sur le climat. Il appelle le chef de l'État à sortir du déni. Et enfin, aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuels face aux étudiants de la Sorbonne à Paris. Emmanuel Macron a promis une revalorisation des salaires des enseignants. Le chef de l'État a également évoqué la formation du corps enseignant qu'il faut selon lui revoir en profondeur.
À tout à l'heure, Simon, pour un prochain point sur l'actualité, nos débats qui démarrent maintenant. J'accueille d'ailleurs Jérôme Moisan, le secrétaire général adjoint de l'unité SGP en duplex avec nous. Bonjour, puisque nous allons évoquer le sujet de Vénissieux maintenant avec vous, cette affaire de Vénissieux, la mort de deux hommes tués par des policiers suite à un refus d'obtempérer. La France insoumise a demandé dans un communiqué la suppression de la BAC et de la BST. Ce n'est pas nouveau, mais apparemment, donc, la France insoumise réitère. Avant de céder la parole à nos invités en plateau, quelle est votre réaction, Jérôme Moisan ?
Je rappelle juste qu'à Vénissieux, mes collègues n'ouvrent pas le feu à l'occasion d'un refus d'obtempérer. Ils ouvrent le feu à l'occasion d'une mise en danger avec une arme par destination qui est leur véhicule. Il y avait un collègue qui était tout simplement sur le capot moteur du véhicule et qui, pour éviter d'être touché dans son intégrité physique, a fait feu, ainsi que son partenaire. Donc j'aimerais juste qu'on fasse le distinguo et qu'on ne fasse pas l'amalgame entre les ouvertures de feu et les refus d'obtempérer. Sinon, c'est une dizaine de fois par jour que mes collègues seraient appelés à tirer s'ils se contentaient de faire feu sur de simples refus d'obtempérer.
Mais avec ce nouveau communiqué, Jérôme Moisan, ce qui résonne dans les têtes de tout le monde, en tout cas de la majorité, c'est cette phrase de Jean-Luc Mélenchon : la police tue.
Oui, enfin, apparemment, ça ne trouve pas son public, dans la mesure où, je crois que c'est votre chaîne, l'a rappelé, il y a 94% des Français qui jugent tout à fait naturel que les policiers fassent usage de leurs armes quand leur intégrité physique est mise en péril. Donc, bien leur en face, aux gens de la NUPES ou de la France Insoumise, les policiers ne sont pas des tueurs, ils agissent uniquement dans le cadre de la légitime défense pour préserver leur intégrité physique ou celle d'autrui.
J'aimerais quand même... vous proposez d'écouter ce qu'a dit Mathilde Panot, la présidente de la France Insoumise à l'Assemblée nationale aujourd'hui, en comparant les forces de l'ordre à la grippe.
La police tue, je vais employer une comparaison qui peut-être va vous paraître bizarre, mais c'est comme quand lorsque vous dites la grippe tue. Ça ne veut pas dire que la grippe tue à chaque fois, mais ça veut dire que oui, il y a des cas de violence policière qui ne sont pas acceptables. Et je dois dire que lorsqu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui n'est même pas en train de conduire, et tuer alors que très clairement, même s'il y avait un refus d'obtempérer qui aurait été avéré, ce n'est pas elle qui était en train de conduire, ce n'est pas
mais acceptable. Au-delà de... Jérôme Moisan, est-ce que ces propos vous mettent en colère ? Faut-il trouver un vaccin contre la police ?
On a déjà pas mal de mal à trouver le vaccin idéal contre la Covid, contre la police qui tue. Je pense que ça demandera un peu de boulot, mais plus sérieusement, c'est décevant quand on sait l'engagement des policiers au quotidien pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. C'est tout simplement déplorable que des élus de la nation puissent tenir ce genre de discours.
Jean Messia, votre réaction ?
Le vaccin contre
La Covid contre la police qui tue.
Contre la police qui tue, il est très simple, c'est de supprimer la France insoumise. Parce que si vous demandez aux Français s'ils veulent supprimer la BAC ou supprimer la France insoumise, je crois que le résultat ne fait pas de doute. Donc vous voyez, je pense que la France insoumise est très souvent prompte à dénoncer la moindre violence policière qui, individuellement, est traitée à la fois de manière administrative par l'IGPN et de manière judiciaire par les tribunaux. Le problème, si vous voulez, c'est que la France insoumise ne dénonce jamais la racaille qui tue. On n'entend jamais la France insoumise nous faire le lien, comme l'a fait d'ailleurs, en toute évidence, d'après les chiffres, le ministre de l'Intérieur, entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité. Ça, la France insoumise n'en veut pas. En fait, l'objectif de la France insoumise, c'est qu'effectivement, la racaille d'extrême gauche prenne le pouvoir avec pour marche-pied la racaille immigrée. Et donc, il ne faut pas toucher, du coup, au marche-pied pour qu'il puisse arriver au pouvoir.
Ce que propose aussi, dans le fond, et dans la forme parfois, mais dans le fond surtout la France insoumise, c'est de vouloir totalement réformer la police. Oui. Et donc faire disparaître la BAC, qui est tout de même la police d'intervention qui est la plus proche des Français au quotidien, qui intervient sur tous les dossiers,
c'est
Jérôme
tellement
Dubus.
C'est tellement bête ce qu'a dit Mme Panot, que c'est même pas la peine de le commenter. Enfin, on est en pleine pandémie, on sort d'une pandémie terrible qui a frappé le monde, et elle nous parle de la grippe. Enfin, c'est tellement ridicule et affligeant que c'est même pas la peine de le commenter. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la réaction des associés dans la NUPES, le Parti Socialiste ou ce qu'il en reste, et puis les écologistes, pour savoir s'ils vont suivre la France Insoumise dans ce cas-là. Parce que ça fait plusieurs fois que ça se produit. Là, c'est encore un pas supplémentaire en disant, écoutez, la police, ça fonctionne pas, la police tue, la police... ne fait pas son travail, etc. Et donc, on va supprimer un certain nombre de comme la BAC, etc. Et donc, que disent les socialistes, que disent les écologistes sur des réactions pareilles, sur la réaction de Mme Panot? Moi, j'attends avec impatience, peut-être qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement gênés qu'ils ne vont pas réagir. Moi, je leur demande de réagir. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que vient de dire Mme Panot et la France insoumise sur ces sujets-là?
Jean Garrigue.
Non, c'est totalement scandaleux. Je me demande ce que les anciens ministres socialistes de l'Intérieur, tels Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve, doivent penser de
Pierre Joxe,
qui avait des liens très proches avec leur administration, avec les policiers, qui les ont soutenus. Je me demande ce qu'ils doivent penser de réflexion. Mathilde Panot n'est pas à son coup d'essai, j'allais dire. Elle multiplie les provocations de ce type. Non, ce qui est pitoyable en réalité, c'est que derrière ce type de provocation, il y a quand même la pêche aux voix. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé aux élections législatives, c'est qu'ils vont chercher les voix des quartiers, les voix des banlieues. Alors c'est vrai que la participation n'est pas très forte, mais on a très bien vu au moment des élections législatives que c'est dans ces quartiers-là, dans les quartiers de grande délinquance, que les scores de LFI ont été remarquables. Je ne parle pas de la NUPES dans son ensemble, parce que j'espère bien que les députés socialistes ou Europe Écologie vont quand même se démarquer. Parce que
il serait temps. Hein.
Quand on dit la police tue, quand on parle de grippe à propos des policiers, quand on excuse, quand on parle de cette jeune fille, évidemment, c'est triste, la mort d'une jeune fille, c'est terrible. Mais enfin, c'était quand même les délinquants qui étaient, si je me souviens bien, qui était rentré dans les policiers, qui avait menacé.
Sur l'affaire de Vénissieux, ce sont les policiers aussi qui se sont retrouvés en danger. Il y en a un qui a été blessé. Ils ont dû faire
le geste. Vous vous rendez compte que des héritiers du Parti socialiste, qui a quand même été au pouvoir pendant un certain nombre d'années, les héritiers de Gaston Defferre, les héritiers de Pierre Joxe, les héritiers d'autres ministres qui n'ont pas démérité, sont en train de se commettre avec ce genre de déclaration.
Justement, sur la légitime défense.
Que fait M. Olivier Faure?
Vénissieux. Il y a cette étude, le résultat de l'étude CSA, CNews, qui nous intéresse particulièrement. Les policiers ont-ils raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée? C'est la question qui a été posée. Une large majorité des Français, comme le disait Jérôme Moisan, en effet, a répondu oui à 94%. C'est massif. Les détails de ce sondage avec Arthur Muriot.
Refus d'obtempérer, guet-apens, quotidiennement, la vie des policiers français est mise en danger. Une menace, les contraignant parfois à riposter. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 94% des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leur arme quand leur vie est menacée, contre 6% d'avis défavorables. Pour les syndicats de policiers, ces résultats doivent désormais mener à une réflexion politique.
Quand on voit des sondages comme ça, où on sent qu'on a déjà une partie de la population, enfin la population même au total,
94%,
c'est énorme, qui est derrière nous. Moi, je dis maintenant, j'espère que nos hommes politiques, nos décideurs, notre exécutif, vont comprendre que les Français demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers.
Dans le détail, ce sont généralement les plus jeunes et les sympathisants de l'extrême gauche qui sont les plus opposés à ce recours à la légitime défense, pourtant autorisé par la loi française.
15% des 18-24 nous disent que les policiers n'ont pas raison d'utiliser leur arme quand leur vie est menacée. Et ça grimpe également à 14% chez les sympathisants de la France insoumise.
Comme le rappelle le Code de la sécurité intérieure, si leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui sont menacées, les forces de l'ordre peuvent faire usage de leur arme.
Jérôme Moisan, est-ce que ce sondage, c'est 94% des Français donc qui défendent, qui légitiment la police, a plutôt tendance à vous rassurer?
Bien sûr que c'est rassurant et ça met du baume au cœur. On en a bien besoin, tant la tâche est rude. Maintenant, pour revenir sur LFI, il s'agit effectivement probablement d'un calcul politique. Alors moi, j'ai évidemment pas l'ambition de les aider dans cette démarche. Je pense juste qu'ils font quand même une petite erreur. Parce qu'en cherchant à séduire cette frange de la population qui honnit la police, il semble qu'ils fassent un calcul électoral qui soit pas des meilleurs.
On peut parler plus précisément maintenant aussi du travail de la police, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui était en déplacement à la préfecture de Paris hier. Et il a rappelé que la lutte contre les rodéos urbains était une priorité. C'est vrai que ça empoisonne la vie de tout le monde et parfois il y a des drames. On écoute Gérald Darmanin.
Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations.
menant à 2700 interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne, et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous, chaque Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale, moncommissariat.fr.
Omniprésence, on le note quand même, Jérôme Dubus, mais dans le bon sens du terme, de Gérald Darmanin, qui est vraiment sur tous les dossiers, et notamment sur le rodéo, parce qu'il ne lâche rien. Il y avait eu les consignes, les ordres donnés aux policiers, au commissariat, avec notamment les 3 contrôles par jour. Mais il y a maintenant la possibilité aussi de signaler, c'est un appel aux citoyens, sur la plateforme internet moncommissariat.fr, les rodéos urbains qui pourraient empoisonner la vie du quotidien.
Elle est assez intéressante parce qu'en réalité, on a pénalisé ces rodéos uniquement depuis 2018, grâce à une loi qui a été votée, et tant mieux. Et depuis, effectivement, il y a un progrès sur la lutte contre les rodéos, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, la mission parlementaire qui avait évalué la loi, parce que c'est bien d'évaluer, de voter une loi, mais il faut aussi l'évaluer, avait noté un certain nombre d'insuffisances. Donc, il faut revenir, à mon avis, sur cette loi, il faut la renforcer. Moi, je suis interrogatif sur ce qui se passe en Angleterre, par exemple. On n'a pas du tout la même conception de la lutte contre les rodéos. En Angleterre, on a quelque chose de très, très violent. C'est-à-dire qu'on interpelle pendant le rodéo. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire ça? Moi, je suis assez partagé. Je n'ai pas d'avis complètement fini, en tout cas définitif sur ce sujet. Mais en tout cas, sur les peines, c'est clair qu'il faut renforcer la loi actuelle.
Jérôme Moisan, sur cette initiative, cette plateforme internet et donc l'appel aux citoyens pour signaler ces rodéos, moncommissariat.fr, vous pensez que c'est suffisant? Ça peut vraiment aider la police?
Ah, bien sûr, ça peut concourir à nous permettre de gagner en efficacité. La sécurité, c'est le rôle de tous. Hein. En fait, on partage le même espace. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas à l'origine à la commission de ces infractions, je pense qu'il est nécessaire que tout le monde participe. Et effectivement, pour les personnes qui sont témoins de ce genre de méfaits, qui pourrissent leur vie au quotidien, il est bienvenu de leur donner les moyens d'apporter des éléments d'enquête aux policiers qui pourront en profiter pour interpeller un plus grand nombre d'auteurs.
Jean Messia, vous allez l'utiliser, cette plateforme Internet? Si vous êtes témoin d'un rodéo?
Non. Je vais appeler la police, mais je ne vais pas utiliser ça. Enfin, ça me semble un peu grotesque, si vous voulez. Pourquoi pas une application monrodeo.fr tant qu'on y est. Enfin, bon, d'autant plus que c'est complètement contradictoire. Parce que d'un côté, on est invité à signaler sur cette plateforme les rodéos, mais de l'autre côté, les flics ont des instructions très claires de ne pas les poursuivre. Donc, OK, on va
faire... Non, mais ce n'est pas des instructions, c'est la loi.
On va faire, faire un signalement. Donc,
c'est la loi.
Je vais, par ma fenêtre, regarder qu'il y a un rodéo qu'ils organisent, donc je vais le signaler sur la plateforme. Les flics vont arriver.
La police, vous pouvez dire les policiers.
Les policiers vont...
Si vous me permettez, Jean-Michel.
Tout le monde connaît cette expression.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je me permets de vous corriger un petit peu.
Donc, les policiers vont arriver, ils vont constater le rodéo. Les auteurs du rodéo vont prendre la fuite. Qu'est-ce que vont faire les policiers alors qu'ils ont interdiction de les poursuivre? Rien. Et donc, ce n'est pas ça qui va les prévenir ou qui va les dissuader de ne pas recommencer la prochaine fois. La solution britannique, au moins, elle offre un avantage, c'est qu'elle est dissuasive. C'est-à-dire que quand vous avez des racailles qui font des rodéos, qui dérangent la population, qui dérangent les habitants, eh bien, si la police arrive et qu'elle peut effectivement les poursuivre et les mettre hors d'état de nuire pendant qu'ils font le rodéo, même si le risque d'accident n'est pas exclu. Mais c'est ça qui participe aussi du changement de mentalité. C'est la coercition qui change les mentalités.
L'accident, il est valable pour les deux. Il est valable pour le policier.
C'est les risques du métier.
Il faudrait que les policiers soient d'accord.
Quand vous êtes flic, c'est pas pour être à Disneyland.
Non, mais enfin,
vous avez pu vous exprimer. Jérôme Moisan est en duplex. Donc c'est moins confortable. On vous écoute, Jérôme Moisan.
D'abord, en réaction à ce qui a été dit, le commissariat.fr, il présente l'avantage de préserver l'anonymat, ce qui n'est pas le cas de l'appel 17 où généralement on exige d'avoir l'identité du requérant. Et puis, autre avantage, il permet de joindre des pièces qui peuvent concourir à l'identification, des photos, des vidéos. Parce qu'il est, évidemment là pas question d'agir en flagrant délit. Il s'agit d'identifier les auteurs de ces rodéos et de les interpeller par la suite. Pour ce qui est de la méthode britannique, je rappellerai juste quand même qu'elle est en réaction non pas à des rodéos urbain, mais à une multiplication de vols violents faits au guidon de deux roues. Donc ça peut aussi peut-être justifier des méthodes d'intervention qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des policiers français qui sont en réaction à des rodéos. Même si les rodéos présentent un vrai danger, ils font néanmoins moins de victimes que les vols violents qui avaient lieu à Londres à l'époque.
Je fais juste une petite digression dans notre débat pour mieux y revenir dans quelques instants. Mais regardez, l'avion d'Emmanuel Macron est arrivé à Alger. Je vous propose de voir cette image en direct avec l'avion là, dont la porte va s'ouvrir évidemment dans quelques instants. Et on aura l'occasion de vivre ça en direct dans notre émission, mais dans Punchline avec Laurence Ferrari qui ne saurait tarder maintenant. Donc on suit en tout cas cette arrivée à Alger en direct du président Macron pour cette visite de 3 jours. En Algérie. Votre sentiment, Jean Garrigue, sur cette initiative plateforme internet moncommissariat.fr qui apparemment ne fait pas l'unanimité sur le plateau pour l'instant?
Non, mais pour moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'opinion du policier qui est là. Il a l'air plutôt favorable et donc moi, je pense qu'il faut le.
L'anonymat, c'est important.
L'anonymat, c'est important. Je me demande si Mathilde Panot n'aurait pas un vaccin contre les rodéos urbains. Peut-être qu'il faudra lui demander. Non, je pense que le modèle britannique doit être suivi à condition que juridiquement, les policiers soient protégés, justement, par rapport... Parce que c'est ça aussi. Il faut que la loi évolue. Oui, et il faut que la protection juridique des policiers en cas d'intervention soit assurée. Après, évidemment, il y a aussi un risque pour leur sécurité physique, pour leur intégrité physique. Et ça, c'est aux policiers eux-mêmes de nous dire ce qu'ils veulent.
Jérôme Dubus ?
Non, moi, je suis partagé sur l'exemple britannique. D'abord parce qu'il n'est pas tout à fait comparable à ce qui se passe en France.
Oui. Ça a été rappelé. C'est ce que nous a dit Jérôme Moisan, absolument.
C'est clair. Hein. Oui. Et puis, deuxièmement, parce que il faudrait savoir si, en matière de rodéo urbain, on peut intervenir en flagrant délit, mais pour faire quoi ? Pour arrêter les gens ?
Ah oui.
Pour confisquer, tout ça doit être défini très clairement.
Détruire.
Très clairement.
C'est quoi cette mièvrerie
protéger...
là ?
Non, c'est pas de la mièvrerie.
Bien sûr que si. Attendez.
Mais non, mais quand...
on peut pas attendre.
Parler avec des policiers, regardez. Parler avec notre interlocuteur. Il vous a précisé ce qui se passait en Angleterre que vous ignoriez totalement.
Mon interlocuteur, voilà. Comme vous dites, il ne représente pas les policiers tout entiers tant s'en faut.
Il est un peu plus compétent que vous en matière de police.
Peut-être, mais moi je parle.
Je suis très.
Parce que Mathilde Panot, elle est très incompétente, mais Jean Messia en matière de police est très incompétent.
D'autres avis sur la question. Quand on dit que les rodéos urbains sont moins dangereux que ce qui se passe en Grande-Bretagne, excusez-moi, tous les 2-3 jours, vous avez des blessés, vous avez même des morts. Il y a encore une petite fille qui s'est renversée à Pontoise, je crois, hier ou avant-hier.
Je préfère avoir affaire à un policier syndicaliste qu'à Jean Messia en matière de police. Excusez-moi. Parce que Jean Messia et Mathilde Panot, c'est à peu près la même chose en matière de police.
Bien sûr. Votre République, elle a la main moite. Dès qu'il s'agit de personnes qui, effectivement,
d'ailleurs, un vaccin contre l'incompétence. Vous pourrez vous être administré.
Vous n'intervenez pas là ?
Bah écoutez, je
vous laisse parler. Quand moi j'interromps, vous rentrez dans l'art.
Pas du tout. Pourquoi vous me prenez à partie, Jean-Michel ?
Parce que
vous me sentez en délicatesse, mais pas du tout.
Vous ne me faites pas respecter mon contrat.
Jean-Michel ne peut plus parler, c'est terrible.
Je ne fais que ça. Mais comme vous occupez bien l'espace, je vous laisse vous exprimer.
Je dis juste.
Mais je vais reprendre la parole dans un instant. Mais allez-y, Jean.
Dès lors qu'il faut faire de preuves de coercition vis-à-vis d'un certain nombre de comportements délictuels ou criminels, toute la Macronie et les gauchos progressistes sont, ils mettent la main, le pied sur le frein à fond les ballons. Donc effectivement,
on a pénalisé les rodéos.
Il y a des rodéos qui se passent. Non, mais attendez, il faut pas les poursuivre parce que vous comprenez, si on les poursuit,
mais qui vous
ça va être trop violent, etc.
Les
cités peuvent s'embraser. Moi, vous savez, la République en laquelle je crois, c'est une République qui a la main ferme.
Oui,
la
bien vôtre, sûr, sur les plateaux de télévision.
La vôtre est une République qui a la main moite.
Et tout à fait.
Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui la situation délétère dans laquelle nous vivons.
Voilà. Alors justement, pas pour vous départager, mais j'aimerais avoir le sentiment de Jérôme Moisan qui est policier, même s'il ne fait pas partie des policiers que vous fréquentez, Jean Messia. Néanmoins, c'est son métier. Je pense que
pas
c'est
les amis
quelque
de Monsieur
chose
Messia,
dont il peut parler. Sur cette méthode britannique, en effet, on en a déjà parlé sur ce plateau. Et c'est vrai qu'au sein de la police, Jérôme Moisan, tout le monde est partagé. Il n'y a pas d'unanimité par rapport à ça.
Alors, juste, je n'ai pas prétendu que les rodéos urbains ne tuaient pas, c'est factuel. Il y a malheureusement des victimes à déplorer. Simplement, ce que je disais, c'est qu'à Londres, quand les collègues londoniens tamponnaient ces deux roues, c'était à la suite de commissions d'infraction et notamment de vols avec violence. Donc, en fait, ces violences étaient avérées. Ça n'est pas le cas de tous les rodéos urbains. Ils peuvent hypothétiquement conduire à des blessures, voire malheureusement des décès, mais ça n'est pas systématique. Il y a quand même une marge. Ensuite, sur l'intervention, le mode d'intervention des policiers, nous, on se pliera aux instructions de notre hiérarchie. La seule exigence en qualité de syndicaliste que nous avons, c'est qu'on protège juridiquement les collègues qui utiliseraient cette méthode du tampon pour, dans l'hypothèse où il y aurait des victimes, un à l'occasion de la pourchasse, parce que pour pouvoir tamponner un deux roues, il faut déjà rouler à la même allure que lui, et on expose la population de ces quartiers au même risque que le jeune qui est sur le deux roues que l'on poursuit, et puis surtout du risque qu'on pourrait faire courir à l'auteur de cette infraction, parce que quand bien même votre intervenant sur le plateau s'en moquerait, si jamais on a déploré le décès du conducteur du deux roues, eh ben, le fonctionnaire de police qui était au volant de son véhicule de police sera seul devant les juges.
C'est bien ça le problème.
Exactement.
C'est bien ça le problème. C'est qu'effectivement, il faut que tout le système soit derrière sa police et qu'au lieu de passer son temps à vouloir criminaliser l'attitude des policiers qui font leur boulot, on ferait mieux d'être plus sévère vis-à-vis des racailles qui leur donnent du fil à retordre. C'est une inversion totale des valeurs.
94% des Français dans le sondage, CNews, reconnaît et abonde dans le sens de la police en cas de
l'indigence. Faites le même sondage chez les juges et chez les hauts fonctionnaires, vous allez voir les résultats.
Ils en font peut-être partie, ils ont peut-être...
Oui, mais ils sont noyés dans
94,6, la question, pas photo. Mais non, mais écoutez, moi, je trouve qu'on a le droit de se poser la question de savoir si on peut dupliquer ce qui s'est passé en Angleterre. Enfin, on n'est pas obligé d'être constamment dans l'extrémisme et dans les solutions simplistes. Ce que fait Jean Messiaen en permanence. On a le droit d'être modéré, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de réfléchir. C'est notre rôle de citoyen, de réfléchir. Et de se dire, est-ce que c'est la bonne solution ou pas ?
Est-ce que ça a été rappelé par les syndicalistes
policiers ?
Mais
c'est différent.
Ça a été rappelé. Les mêmes causes doivent susciter les mêmes effets.
Il est important qu'il y ait des règles et qu'il y ait un cadre.
Mais oui,
même, j'ai jamais dit le contraire.
Il peut y avoir aussi des dérapages si on est trop excessif, monsieur Messiaen.
Les règles et le cadre sont là, doivent être là pour protéger les citoyens.
Mais protéger aussi la police, physiquement.
Oui, les citoyens, dont la police, mais ils ne doivent pas être là pour protéger les crapules. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Mais non.
Mais si.
On va se quitter, ça y est, le temps qui nous est imparti s'achève, on va marquer une pause et retrouver Laurence Ferrari avec Punchline dans quelques instants. Juste une petite image en direct avec encore une fois l'aéroport d'Alger et l'avion d'Emmanuel Macron
qui a bien atterri.
La porte va s'ouvrir, c'est une certitude.
Je suis très inquiet.
Vous allez voir, ce
ça fait 10 minutes qu'elle est fermée.
Ce sera l'ouverture de l'émission de Laurence dans quelques instants.
Il y a peut-être un cluster.
Elle attend Laurence Ferrari, c'est très bien.
Absolument, mais c'est tout est prévu comme ça.
Génial.
C'était effectivement pour le début de l'émission Punchline avec Laurence Ferrari que l'on retrouve dans quelques instants. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous les trois et à tout de suite. Vous restez avec nous évidemment sur CNews.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.